Portrait d'histoire sur Radio La Côte.
Portrait d'histoire.
Radio La Côte. Portrait d'histoire.
Portrait d'histoire sur Radio La Côte.
Cette semaine, je me suis rendue à la case pour rencontrer Franck Ricard, bénévole des Amis du Château. Grâce à lui, je vous propose de faire un bond dans le passé à la recherche de l'histoire de ce château qui surplombe le Gijou en plein centre du village lacazois.
Bonjour, je me trouve aujourd'hui à la case en compagnie de Franck Ricard qui est membre des Amis du Château. Et vous l'aurez donc deviné, nous allons aujourd'hui parler de ce fameux château de la case dans Portrait d'Histoire. Donc, Monsieur Ricard, pourquoi vous êtes-vous intéressé au château de la case?
Ben, je me suis intéressé au château de la case d'abord parce que je suis lacazois et que j'ai côtoyé le château depuis ma tendre enfance et que je voyais avec beaucoup de tristesse ce château dans les années 90 tomber en ruine. Au moment en 96 où Jacques Bonafé, qui est aussi natif de la case, est devenu maire, il a eu, je pense, la sagesse de vouloir profiter du château pour essayer de donner un peu de vie à la case. C'est à partir de ce moment-là que, en accord avec lui et même à sa demande, nous avons monté une association, les Amis du Château de la Case, pour justement appuyer auprès des autorités diverses pour pouvoir obtenir des subventions pour au moins restaurer ce château.
D'accord. Et justement, les amis de la case donc existent depuis
1996.
Alors quel est donc le but? On comprend assez que c'est de préserver ce château, mais quelles ont été les actions et quelles sont les actions prochaines?
Le but de l'association, c'est au moins de faire des recherches à la fois historiques et de fouilles sur le château. On n'a jamais vraiment eu une histoire du château de la case et donc ça a été d'abord le premier but, si vous voulez, de l'association, faire des recherches historiques et faire des fouilles.
D'accord.
Et ensuite, aidé par, évidemment, la municipalité qui a eu recours à des chantiers d'insertion, nous avons pu commencer à arriver à faire quelques fouilles. Et moi, personnellement, je me suis engagé dans toutes les recherches possibles qu'on pouvait faire aux archives départementales et même à Paris.
Donc vraiment une vraie recherche. Alors justement, on dit que la première trace du château de la case date de 1420.
Oui.
Quelle est cette trace en fait?
Bien, en 1420, la terre de la case, on ne parlait pas du château à l'époque, la terre de la case a été achetée par Béranger de Galland, qui était seigneur des cabanes et de Gijounet à l'époque. Et il a acheté la terre de la case à Émeric Sicard de Brassac, qui est issu de la grande famille des Lautrec, qui était possesseur de ce qu'on appelait le Sénégadès, qui à l'époque comprenait les communes de la case, Sénégat, Saint-Pierre de Trévisy et Vavre.
Donc en fait, on retrouve donc pas trace encore du château, mais des terres. Alors on peut imaginer que le château existait déjà ou pas.
Je ne sais pas si c'était vraiment un château. Je pense que les traces de ce château existent encore à la case. C'est la grande maison qui se trouve près du château qui ressemble à un donjon. On pense que c'est certainement la première trace de ce château qui ensuite, au fur et à mesure des familles qui se sont succédées, ont agrandi le château.
Je sais aussi que vous faites beaucoup de recherches sur le château. Est-ce que vous retrouvez beaucoup de traces et est-ce que c'est facile de trouver ces traces? Comment on fait en fait?
De traces, je n'ai pas trouvé de traces du château. Je suis allé aux archives nationales à Paris, voir si dans le fameux cabinet des estampes qui réunit les dessins qu'il peut y avoir eu sur les vieux châteaux, les vieilles chapelles, il n'y a rien concernant la case.
D'accord.
Donc on ne peut que interpréter ce qui s'est passé, on ne peut que constater que ce qui reste maintenant, ça faisait partie du château de la case. Mais ça n'était pas le château qui était certainement beaucoup plus important. En tout cas, c'est mon point de vue, je ne pense pas que le château ait jamais été un château féodal. Hein.
Alors vous pensez que le château date de quelle époque alors du coup?
Alors le château, je pense que ce fameux Béranger de Galland a agrandi le château, ou au moins l'a restauré. Mais il n'a pas pu l'habiter, je pense, avant 1420-1430, puisqu'à l'époque, on trouve trace de sa présence encore aux cabanes. Donc le château n'était certainement pas terminé. Là, je crois qu'il y a eu une première construction du château. Ensuite, en 1519, une une fille d'un galant, marquisé de Galant, a épousé Pierre de Chalon. Pierre de Chalon était une famille très riche originaire de Provence. Ce Pierre de Chalon, d'ailleurs, était l'arrière-petit-fils de Louis de Chalon, qui était prince d'Orange. Donc, c'était une famille très riche. Et dans l'histoire de ces Chalons, j'ai retrouvé trace d'un héritage qui était très, très important. Et donc, Pierre de Chalon a eu une part très importante. Et je pense que c'est à cette époque-là que le château a été vraiment agrandi. Et c'est mon point de vue aussi. Je pense que ce qui reste là date de cette époque-là, c'est-à-dire vers 1580, par là.
Est-ce que par rapport donc à tout ce que vous apprenez, vous pouvez aussi déterminer peut-être ce qu'était la vie de la commune ou en tout cas des terres autour ou,
J'avoue que non. Je n'ai pas dirigé mes recherches de ce côté-là. C'est surtout le château qui m'intéresse pour essayer de découvrir effectivement ce qu'il était. Il y a encore des fouilles à faire qui seront faites, mais c'est surtout vers les familles qui ont habité le château que toute mon attention s'est apportée, c'est-à-dire les familles de Chalon et la famille Bourbon-Malose, évidemment.
Voilà, justement, la famille Bourbon-Malose revient indéniablement chaque fois que l'on parle du château. C'est celle que vous connaissez le plus, puisqu'en fait, elle est d'une période peut-être un peu plus récente. Pouvez-vous nous parler de ce famille qui, je crois, avait quand même une grande influence sur tous les mondes de la Cône, la vallée du Gijou aussi?
La famille Bourbon-Malose est originaire de Malose. Enfin, originaire de Malose, était possédé Malose, d'où le nom. Mais les Bourbon-Malose descendaient du sixième fils de Saint-Louis, qui avait épousé la dernière des Bourbons, dont il avait pris le titre. Et les Bourbon-Malose de la case descendent d'un bâtard de cette famille-là, qui s'appelait Charles. Et le premier Malose qui est arrivé à la case était le petit-fils de ce Charles. Non, l'arrière-petit-fils de ce Charles. C'était Henri de Bourbon-Malose. Son père, Henri Ier, était un compagnon d'Henri IV. Il l'a accompagné dans beaucoup de campagnes. Il était pratiquement son aide de camp. Il l'a accompagné surtout dans la Haute-Auvergne, où il était chef des protestants. Son fils Henri II a épousé en 1598 Madeleine de Chalon, qui effectivement lui a apporté en héritage toute la terre de la case.
Tu ris si mal, tu ris de vide, des taches de vin sur ta chemise. Il y a de boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées, l'amour le manque la tournée. Et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu m'aimes. Le menace de partir, parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur, car tu sais que plus rien. Ça va comme ça, mes amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi je me lève et toi tu meurs. Menace de partir, parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur, car tu sais que plus rien. Mais dis-moi, adieu.
Portrait d'histoire sur Radio Lacaune.
Portrait d'histoire.
Radio Lacaune, portrait d'histoire.
Portrait d'histoire sur Radio Lacaune.
Juste avant notre petite pause musicale, vous me parliez d'Henri II qui a épousé Madeleine de Chalon. Qui était cet Henri II ?
Cet Henri II était le filleul d'Henri IV. Et son père, d'ailleurs, l'avait, en bas âge, l'avait confié à la mère d'Henri IV pour l'éduquer dans la religion réformée. Cet Henri II fut un grand militaire. Il participa à toutes les guerres de religion et combattit surtout, dans les années 1620, aux côtés de Rouen, à toutes les batailles qui eurent lieu dans le Tarn, aussi bien à Foch qu'à Réalmont, Briatexte, où il fut un grand militaire. Et pour le récompenser, le roi Henri IV, puis à la suite le roi Louis XIII, le nomma capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances. Étant donné que cet Henri II était un Huguenot convaincu, puisqu'il combattait auprès de Rouen, le roi Louis XIII essayait de le convertir, c'est-à-dire de le faire revenir dans la religion catholique, mais il ne réussit à le faire qu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire que vers 1647, ce fameux Henri de Bourbon-Malozes abjura le protestantisme à Lasgrais, dont il était le seigneur. Il était né protestant et il est mort catholique. Et c'est son fils Louis qui prit la succession. Ce fut certainement avec son fils, qu'on verra plus tard, était un seigneur fort aimé dans la région, mais c'était un seigneur qui avait ses ouvertures à la cour.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il n'était pas très souvent
à la case.
Comment dirais-je, j'ai essayé de définir qui était cet homme-là. Un portrait m'a été donné par Maître Leclerc, notaire de Montauban, qui avait été chargé de faire la généalogie de la famille. Il dit ceci: ce fut un seigneur aussi bien fait qu'il y en eut en France, dont la présence et la gravité répondaient à la dignité de son origine, de grand cœur et de grand esprit, doué d'une rare éloquence qui lui était naturelle, ayant une particulière connaissance des belles lettres et aimant ceux qui les possédaient. Effectivement, dans l'inventaire des biens des Bourbon-Malozes que j'ai retrouvés, qui est un inventaire fait en 1744, on trouve une salle qui était la bibliothèque des seigneurs. Et dans cette salle, il est listé plus de 200 livres qui étaient à la fois des livres en latin et des livres d'histoire et quelques romans. Preuve que à cette époque-là, le seigneur de la case était quand même très intéressé par les lettres.
Voilà, très très ouvert à ce qu'il faisait au niveau culturel, mais aussi historique du coup, puisque vous disiez des livres d'histoire aussi.
Voilà, mais c'était aussi un grand militaire. Il s'est distingué aux côtés du roi dans la campagne les fameuses campagnes des Flandres. Pour reconnaître sa valeur, le roi en récompense érigea en sa faveur la baronnie de la case en comté. Jusque-là, la case n'était qu'une baronnie qui était habitée par un marquis, le marquis de Bourbon-Malozes, puisque Malozes était un marquisat. Et à partir de ce moment-là, la case est devenue comté. La case est devenue le centre de tout un espace qui était très important, puisque dans ce comté, il fut adjoint Vianne, Vabre, Gijounet et une partie de la Cône. Autrement dit, tout le comté se trouvait là, et la haute et moyenne et basse justice étaient à cette époque-là rendues à la case.
D'accord.
La case, à ce moment-là, était devenue un centre très important.
On va dire un peu une capitale de canton pour situer dans notre temps. Quoi.
Absolument, oui.
Oui, donc quand même, comment cette petite bourgade, aujourd'hui, était-il un centre on va dire décisionnaire en ce temps-là, grâce justement à ces Bourbon-Malozes, à cette famille-là qui a compté,
absolument,
notamment par ses faits d'armes.
Absolument,
en fait.
Oui. Ce sont les faits d'armes qui ont amené le roi à élever en comté la case et à en faire un centre administratif. Celui de Bourbon-Malozes est d'ailleurs mort à Paris. Il n'est pas mort à la case, il est mort à Paris. Et on a retrouvé un texte qui était l'autorisation du roi Louis XIV de transférer le corps de Louis de Bourbon-Malozes jusqu'à la case où il a été enterré dans le tombeau de la famille. tombeau de la famille qui existe toujours encore.
D'accord. Et où c'est qu'on le retrouve alors, ce tombeau de la famille?
Il est sur la route qui passe derrière l'église et qui monte ce qu'on appelait l'ancienne route de Cavalière. Et là, maintenant, c'est un garage, mais c'est là que se trouvait le tombeau des seigneurs et qui date certainement de très longtemps. Il doit dater certainement de 1480, même peut-être avant.
À peu près, donc, du temps où les premiers, les premiers bâtiments, on va dire, qui composent le château.
Il est sûr que les chalons ont été enterrés là. J'en ai des traces, mais les deux galants, je ne sais pas. Mais moi, les chalons, eux, ont été enterrés là, puisqu'ils voulaient être enterrés sur leur terre, ce qu'ils appelaient la terre de la Benque, qui est la terre qui se trouve là, puisqu'il y a la fontaine de la Benque qui est juste à côté là.
Frasi di amore appassionate, ma solo baci che do a te. Con 24.000 baci, felici corrono le ore. In questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Meravigliose, frasi di amore appassionate, ma solo baci che do a te. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore. In questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, felici corrono le ore.
Portrait d'histoire sur Radio Lacône.
Portrait d'histoire.
Radio Lacône, portrait d'histoire.
Portrait d'histoire sur Radio Lacône.
Alors après ce Louis, Bourbon Maloz.
Alors c'est son fils qui est devenu marquis de la case. Et Guy-Henri de Bourbon fit ses premières armes sous Turenne parce que sa mère, qui s'appelait Henriette de Durafort, était une nièce du grand Turenne. Donc il a commencé ses armes, si vous voulez, sous le maréchal de France, qui était son grand-oncle. Puis petit à petit, il est devenu brigadier des armées du roi. Et en 1688, il commande les compagnies des grenadiers de l'armée d'Allemagne jusqu'en 1689. Mais malade, dans les années 1690, il se retire à la case parce qu'il ne pouvait plus, il n'avait plus les moyens physiques de continuer à faire ce métier. Ce qui ne l'empêcha pas de se convertir. En 1667, au catholicisme, il se convertit devant Bossuet. Et à partir de là, comment dirais-je, la religion dans la région a changé. C'est-à-dire que, étant donné que le Seigneur était devenu catholique, cela a eu une influence sur les habitants. D'ailleurs, le premier acte que fit Guy-Henri de Bourbon, ça a été de donner le temple, de le donner à l'Église, à la religion pour en faire une Église.
Donc, en fait, pour expliquer aux personnes, donc, qui nous écoutent aujourd'hui, l'église de la case était en fait l'ancien temple. Donc, en 1600 et quelques.
Qui d'ailleurs, je pense, ce temple existait depuis 1550, puisqu'en 1580, il a été agrandi étant donné que les fidèles n'arrivaient pas à être tous ensemble pour les offices. Et ça a été son premier acte pour, comment dirais-je, prouver qu'il était devenu un bon catholique. Et c'est d'ailleurs pendant qu'il était marquis de la case qu'eut lieu le fameux massacre, entre guillemets, de Saint-Jean d'Elfrich. C'est d'ailleurs sa mère, Henriette de Durafort, qui rassembla ces gens, une bonne centaine, pour aller à Saint-Jean-d'Elfrich, pour disperser l'assemblée du désert qui y a eu lieu. Mais ce Bourbon de Malose fut un grand Bourbon, et c'était l'époque où la famille a été au summum de sa puissance. D'ailleurs, on le voit dans le testament qu'il fit, puisqu'en tête du testament, il y a toujours l'énoncé de tous les titres que possédait, à cette époque-là, la famille Bourbon-Malose. Je vous donne la liste, puisque je l'ai sous les yeux, là. À cette époque-là, c'est-à-dire en 1702, Guy-Henri de Bourbon-Malose était marquis de Malose, de Miremont, de Montmouton et de Montpezat. Il était comte de la case de Vianne, Vabre, Gijounet et Rouquayrols. Seigneur et baron de Roumégous, Cadoul, Le Bosc, Favart, Saint-Germain-l'Arvègne, Saint-Côme, Mans, Saint-Mexan, Lasgrais, Chaudes-Aigle, La Penne, Seignalaise, La Bruyère, Réalmont et Mur-à-la-Rame. Autrement dit, ça représentait une fortune énorme. C'est-à-dire que toutes les terres, depuis pratiquement la Montagne Noire jusqu'au Dadou, lui appartenaient.
Donc c'était vraiment un grand seigneur, quoi.
Ah, c'était un très grand seigneur qui, d'ailleurs, avait amené à la case des orangers et la vigne. Les orangers se trouvaient là au-dessus du camping, et dans le fameux inventaire dont je vous ai parlé, ils sont répertoriés 74 orangers dans leur caisse. Autrement dit, ça représentait quand même quelque chose d'important.
Quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire, donc fatalement qui avait une certaine valeur.
Voilà. Et il a su aussi implanter la vigne, d'où le nom de la vigne qu'on donne à la montagne qui est en face, qui est juste au soleil là. C'est lui qui avait amené la vigne à la case.
Donc la famille Bourbon-Malose est au sommet, on va dire, de sa gloire.
Oui. Enfin,
de sa gloire. Je sais pas si on peut.
De
sa puissance, en tout cas. Que se passait-il après?
Mais au décès de Guy-Henri, c'est son fils, Louis-Auguste, qui prend la succession. Louis-Auguste, c'est un militaire lui aussi, mais qui ne reste pas très longtemps à la case. Il n'y séjournait pas souvent. Il avait acheté à Castres l'hôtel Frescati. Et c'est là qu'il habitait la plupart du temps, puisque dans l'inventaire qui a eu lieu à son décès, tout ce qui est répertorié est toujours signalé comme étant en mauvais état, délabré, alors que tout ce qui est l'argenterie et les beaux meubles se trouvent à l'hôtel Frescati, dont nous avons aussi l'inventaire. Il était beaucoup plus souvent à Castres qu'à Albi. C'était aussi un militaire, mais qui n'était pas, n'était pas aussi impliqué dans cette vie-là que ses prédécesseurs. Et il mourut subitement à Castres en 1643. Et il a été enterré, évidemment, comme ses prédécesseurs.
Dans le tombeau.
Dans le tombeau. Et à partir de ce moment-là, étant donné qu'il n'avait pas de fils, la succession était vacante. Et c'est son frère Armand, qui lui aussi était un militaire,
d'accord,
qui prit la succession. Il lui habitait Albi, rue de Toulouse-Lautrec, actuellement. Et donc c'est lui qui recueillit la succession, mais il n'en profita pas longtemps, puisque lui aussi fut blessé du côté de Nice, et il mourut très rapidement, ce qui fait que sa succession encore aussi était ouverte, il n'y avait personne pour prendre l'héritage. Et à ce moment-là, l'héritage revint à une demi-sœur, qui était la comtesse de Poitiers, et jusqu'à la Révolution, c'est la comtesse de Poitiers qui fut chargée de la gestion de toutes les possessions des Bourbon-Malose.
Est-ce qu'elle était, elle, sur place?
Ah non,
voilà, elle était...
Non, elle était pas sur place, elle est gérée par l'intermédiaire de ses procureurs, qui, eux, faisaient tout ce qu'ils avaient à faire pour gérer les propriétés, les fermes, etc.
Et je crois qu'après, à la Révolution, en 1793, quelques années après la Révolution, il y a eu un incendie, c'est ça, au château? Ou est-ce que je me trompe?
Oui, oui, mais entre-temps, à la Révolution, il y a eu des problèmes avec l'héritage. La Révolution, effectivement, étant donné que c'était des nobles, toutes leurs possessions ont été mises sous séquestre. Et il a fallu attendre 1794, je crois, pour que l'administration demande à ce qu'il y ait un inventaire de toutes les possessions des Bourbon-Malloz pour savoir effectivement ce qu'il fallait en faire, puisque, entre-temps, trois héritiers de la comtesse de Poitiers s'étaient manifestés. Donc, l'inventaire fut fait. C'est l'État, si vous voulez, c'est la puissance publique qui partagea en trois l'héritage et l'attribua aux divers héritiers. Seulement, il y en avait un héritier qui avait quitté la France, qui s'était exilé. Et là, tous ses biens furent vendus aux enchères en 1795. En particulier, le four de la Case, la métairie de la Janier, le moulin de Vabre. Il y avait aussi les forêts de Morocous et de Montgros. Tout ça, toutes ces possessions ont été vendues.
Elle se lève, boitée. 10 heures, il est déjà tard. Dehors, des milliers de gens sortent des gares. Elle me dit, je reste chez moi. Non, je ne suis pas une paresseuse. Mais la vie ne lui montre pas qu'elle pourrait être un jour heureuse. Un jour heureuse. Un jour heureuse, un jour heureuse. Elle rêve d'une vie si longue, si délicieuse. Sans regret ni monotonie. Elle est trop ambitieuse. Aujourd'hui elle a fait un choix. Elle prend son temps, elle est curieuse. Elle veut comprendre ce qui ne va pas et pouvoir être un jour heureuse, un jour heureuse, un jour heureuse, un jour heureuse. Elle se contente de peu, elle ne prend pas au sérieux les attaques, les médisances qui viennent de loin. Elle se pose des questions, elle est remplie d'obsessions. Que va-t-elle devenir? Que va-t-elle devenir? Elle a des étoiles dans les yeux. Elle a du soleil dans la voix. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Elle voudrait être un jour heureuse. 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 Un jour heureuse.
Portrait d'histoire sur Radio Lacône.
Portrait d'histoire.
Radio Lacône, portrait d'histoire.
Portrait d'histoire sur Radio Lacône.
Qui s'occupe et qui habite peut-être le château de la Case, en tout cas, à qui appartient-il?
Le château de la Case a été à ce moment-là, et c'est beaucoup plus compliqué, mais pour faire simple, en 1805, le château de la Case, en ruine, c'est bien écrit dans le texte, partiellement en ruine, a été acheté par Louis Bernadou, qui est un marchand de Castres et qui était natif de la Case.
D'accord, donc le château quitte en fait des personnes qui ont des titres.
Voilà, et ce Bernadou, d'ailleurs, avait racheté pas mal de métairies, et il avait donc acheté le château qu'il n'a pas d'ailleurs gardé, étant donné qu'il était en ruine. Il l'a vendu appartement par appartement, ce qui fait qu'il y a eu différents propriétaires qui sont devenus propriétaires du château. Petit à petit, il s'est abîmé. Il fut même brûlé en 1887, je crois. Et c'est le troisième étage qui avait brûlé et qui n'a été que reconstruit en partie.
Par rapport aux documents que vous avez trouvés sur le château de la Case, à quoi pouvait-il ressembler? Que manque-t-il en fait aujourd'hui au château pour ressembler au temps de sa puissance? On ne le sait pas réellement.
On ne sait pas. Il n'y a absolument rien. Je n'ai rien trouvé. Si, il y a eu deux fascicules qui ont été édités, mais malheureusement, il y a des affirmations qui ne sont pas justes. D'ailleurs, un des auteurs, qui s'appelle Corbière, a confondu, parce que dans son fascicule, il donne une photo du château de la Case, mais ça n'est pas le château de la Case au bord du Gijou, c'est le château, l'ancien château de la Case au bord du Tarn, en Lozère.
D'accord.
Donc il a un peu confondu, si vous voulez.
Les deux histoires.
Oui, il pensait, lui, que c'était un ancien château féodal. Absolument pas.
Ce que vous ne pensez pas du tout. Pour revenir un peu sur l'histoire du château, on peut dire qu'une des devises, celle des Bourbons-Malozes notamment, et donc du coup du château de la Case, était « qui peut et qui ose », c'est ça?
Oui, textuellement, c'est « je suis Maloze, qui peut et qui ose ».
Pour la rime.
Pour la rime, oui, mais c'est l'exact maxime.
Et est-ce qu'on a trace d'où vient cette maxime, ou est-ce que c'était donné comme ça
Non, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé quelle est l'origine de ça. Je pense que c'est basé sur le fait que c'était une famille puissante.
De guerriers, peut-être aussi.
De guerriers qui étaient de descendance bourbon, donc. Je pense que cela vient de là.
On sait aussi que donc tout autour de la Case, il y a pas mal de châteaux. Il y a le château de Camalières, le château de Sénégas.
Oui.
Il y avait un château aussi à Vienne.
Oui.
Est-ce que tous ces châteaux étaient en lien ou pas? Ou peut-on imaginer qu'ils appartenaient?
Le château de Camalières, lui, est tout à fait récent. Il a été élevé dans les années 1800, je crois.
D'accord.
Le château de Vienne, lui, effectivement, ce fut un château très important, puisqu'il fut assiégé par Rohan dans les années 1620, je crois, et a été détruit. Enfin, là, c'était un château qui défendait vraiment, c'était vraiment le château fort. Le château de Sénégal, c'est pareil, c'était un château fort qui était la possession de la famille Lautrec, et qui, là aussi, est resté debout et habité jusque dans les années 1700 et quelques. C'était la famille de Durand de Beaune qui l'occupait, qui était aussi marquis de Durand et de Beaune, mais qui n'avait pas de lien vraiment avec le château de la Case.
Donc en fait, pas de lien entre ces châteaux, juste donc une preuve que sans doute l'histoire de la montagne a été riche, je pense.
Absolument, et ça n'est pas fini, j'espère encore retrouver autre chose. Si ce qui est intéressant encore à la Case, hormis le château, c'est ce qui est resté des possessions des Bourbons-Malozes. Par exemple, le moulin. J'ai réussi à en faire l'histoire. Ce moulin date certainement des années 1580, même peut-être bien avant. Les écuries et les granges du château sont un peu plus loin que le château, en descendant vers les écoles, dont le fameux mausolée aussi, qui est sur la route de Camalières. Il y a aussi la plupart des habitations du quartier de la Mayonnette, où se trouvaient aussi les étables et les écuries des Bourbons-Malozes avec la forge. Tout ça se trouvait là-bas.
Grâce aux recherches que vous faites sur le château, en vous concentrant sur le château, vous découvrez aussi l'histoire du village.
Qui reste encore à la Case et qui date de ces époques-là. D'ailleurs, il y a une maison de la Case qui est très belle, au bord du Gijou, là-bas, qui est certainement de 1580. Mais c'est une maison qu'il faut visiter, il faut aller la voir. Il y a un escalier magnifique, il y a une salle magnifique, il y a une porte magnifique, et c'est certainement une des plus vieilles maisons de la Case.
Ne pas hésiter peut-être à se promener dans la Case. Donc vous le disiez, vous continuez les recherches en espérant en trouver plus. Ouais. Donc vous disiez que vous alliez chercher aux archives départementales d'Albi, que vous étiez allé aussi à Paris.
Oui.
Où pensez-vous, déjà avez-vous peut-être pas encore trouvé tous les trésors des archives départementales d'Albi, je suppose qu'il vous reste encore beaucoup de documents à...
Il y a deux documents qui m'intéressent particulièrement, qui permettront peut-être de savoir un petit peu comment était le château. Ce sont les deux fameux inventaires qui datent, le premier date de 1670 et l'autre de 1744. Surtout celui de 1744 qui est très bien fait, où on navigue de pièce en pièce et d'étage en étage. En étudiant peut-être de plus près ces textes-là, on arrivera peut-être à remonter le château, à remonter les pièces telles qu'elles étaient.
Oui, voilà. En fait, donc ça, c'est quand même formidable de pouvoir se dire ça. Je suppose que quand même, ça a un côté un peu avec adrénaline.
Cette année, je pense pouvoir faire une petite communication à l'Assemblée générale sur la chambre du marquis et de la marquise, qui étaient deux chambres séparées, mais qui étaient, si vous voulez, très belles et très bien meublées, avec tout ce qu'il faut, l'antichambre, la chambre des servantes, etc. Je vais essayer de construire un petit peu ces chambres, voir comment elles pouvaient être disposées.
À l'heure d'aujourd'hui, les amis du château et puis aussi la municipalité lacazoise, qu'est-ce que vous allez faire pour l'avenir de ce château? Parce que on parle d'histoire, mais il y a aussi le futur.
Non seulement nous occupons, si vous voulez, de l'histoire, on continue quand même, puisque nous allons quand même continuer les fouilles, que l'on ne sait pas tout du château, mais ce qui est dans nos attributions aussi, c'est d'essayer avec la mairie d'animer le château en même temps que l'Assemblée Générale, des expositions comme nous en avons fait une cette année. On va certainement créer un atelier de sculpture de pierre. Petit à petit, chaque année, on va essayer d'animer le château du mieux possible.
Et peut-être pour cette année, j'ai appris qu'il y avait aussi un concours, je crois, de photos. Peut-être en parler à nos auditeurs par la même occasion, si certains ont des photos du château. Alors dites-nous en plus peut-être.
Eh bien, c'est un concours qui est ouvert à tous et nous voulons essayer encore une fois de faire une nouvelle carte postale concernant le château. Mais à travers ça, étant donné que nous allons, je l'espère, recevoir beaucoup de photos, essayer de monter un petit peu un album, si vous voulez, qui nous permettra de voir comment chacun appréhende le château et la case.
Je rappelle que le prix de ce concours, vous pouvez envoyer les photos donc aux amis du château de la case. Je pense que l'adresse c'est mairie de la case, 8330 la case. Et donc le prix, c'est bien que votre photo soit le modèle d'une carte postale.
Postale concernant le château.
Voilà.
Donc, les environs immédiats du château.
Ou les environs immédiats du château, ou même, je crois, l'intérieur du château.
L'intérieur du château.
Peut-être pour terminer, avez-vous une petite anecdote historique qui pourrait nous éclairer un peu plus et nous en dire un peu plus sur...
Oui, c'est une anecdote qui est racontée dans les livres. Je ne sais pas si elle est exacte. Elle concerne la construction du moulin, justement. Le moulin qui se trouve sud-ouest du village est alimenté par une chaussée qui se trouve à l'opposé, mais entre, il y a des roches, il y a l'église et il y a le village. Donc, pour alimenter ce moulin, il a fallu creuser ce tunnel. Et la légende dit que le seigneur de l'époque, qui était certainement de Galant ou de Chalon, je ne sais pas, avait promis à ceux qui allaient y participer de donner un panier de grains contre un panier de gravats ressortis. C'est une histoire qui est toujours restée dans la mémoire de la case. Est-ce qu'elle est exacte? Je n'en sais rien. En tout cas, elle montre que le seigneur voulait mettre le prix pour que ce tunnel soit creusé et alimente le moulin.
Et que le moulin, donc, fonctionne.
Puisse fonctionner.
Mais écoutez, Monsieur Ricard, si vous n'avez plus rien à ajouter, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Et bien sûr, nous suivrons vos prochaines avancées et puis tout ce qui sera fait au niveau des animations de la part des amis du château. Merci Absolument. Beaucoup. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès dimanche prochain pour un nouveau portrait d'histoire sur Radio Lacone.